Tout de suite sur Radio Albigès, retrouvez une émission spéciale de découverte du monde professionnel et du parcours d'orientation. Une émission réalisée par des élèves de 3e du collège Augustin Malroux à Blaye-les-Mines dans le cadre de leur parcours à venir en collaboration avec Madame Cabane, professeure de sciences et vie de la Terre, Monsieur Suarez, professeur documentaliste et Radio Albigès, en vous souhaitant une bonne écoute.
Bonjour, je m'appelle Camille, je suis une élève en 3e au collège Augustin Malroux à Blaye-les-Mines. Aujourd'hui, je suis en compagnie des autres élèves de 3e qui vont donc se présenter.
Bonjour, je m'appelle Asia.
Bonjour, je m'appelle Lilou.
Bonjour, je m'appelle Jade.
Bonjour, je m'appelle Nassim.
Salut, moi c'est Loïc.
Bonjour, je m'appelle Lina.
Bonjour, moi c'est Vincent.
Bonjour, moi c'est Lucas.
Moi c'est William.
Et moi, je m'appelle Maxence.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, nous allons parler de la découverte du monde professionnel et du parcours d'orientation. Il s'agit d'un sujet développé au collège, à Blaye-les-Mines, qui s'inscrit dans le parcours à venir. Cette émission a été préparée au CDI le mardi, dans le cadre du fonctionnement d'un atelier animé par M. Suarez, professeur documentaliste, et Mme Cabane, professeur d'SVT.
Au sommaire de l'émission, vous entendrez l'interview de Daniel Saïs, psychologue de l'éducation nationale. Il nous expliquera son rôle et nous donnera quelques astuces pour bien préparer son orientation.
Ensuite, une chronique conseillée présentée par Lilou, Camille et Asia, qui vous expliqueront comment chercher un lieu de stage, se présenter dans une entreprise, faire une lettre de motivation et rédiger un CV. Nous écouterons l'interview d'élèves du lycée et de la CPE. Lucas nous expliquera la différence entre lycée général et professionnel. Et nous entendrons l'interview de M. Bégor, proviseur du lycée Jean Jaurès de Carmaux.
Mais aussi, nous vous présenterons deux entreprises que nous avons visitées, Palmerie Mécanique et la Carrosserie d'Or, ainsi que le métier de policier à travers leur interview.
Enfin, certains d'entre nous expliqueront comment faire des recherches sur un métier et quels outils utiliser. Et bien sûr, de la musique et de la bonne humeur.
Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis élève en 3e D au collège Augustin Malroux à Blaye-les-Mines. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Saïs, conseiller d'orientation du collège, et nous allons lui poser quelques questions.
Bien, donc déjà, bonjour tout le monde. Vous m'avez présenté donc comme conseiller d'orientation du collège. Alors, je suis bien évidemment conseiller d'orientation, je suis avant tout psychologue. C'est le nouveau titre qu'on a donc dans l'éducation nationale, c'est psychologue de l'éducation nationale chargé d'orientation. Donc j'ai à la fois donc les deux fonctions de psychologue, mais également pour aider donc les élèves dans leur orientation.
Comment peut-on vous rencontrer au collège Malroux?
Alors, par rapport aux rendez-vous, aux rencontres, aux entretiens, tout simplement au collège Malroux, je suis présent donc le mardi. Je suis bien évidemment dans d'autres établissements, collège et lycée, les autres jours de la semaine. C'est pas parce que je veux pas vous voir que je suis pas là les autres jours ou que je me roule les pouces chez moi, c'est pas le cas. Par contre, donc pour prendre rendez-vous, tout simplement, il existe un cahier de rendez-vous qui est à la loge, donc à l'accueil du collège, et qui permet donc de s'inscrire seul ou avec un adulte pour prendre rendez-vous avec moi, donc avec des horaires et des dates. Et mon bureau donc se situe au premier étage, c'est le même bureau que celui de l'assistante sociale.
À partir de quel niveau scolaire d'après vous et quel moment dans l'année doit-on s'interroger sur son orientation?
C'est une bonne question. Donc, tout au long de votre scolarité, et dès la sixième, je pense que vous avez déjà eu ce type de question-là qui a été posée, c'est-à-dire que vous avez déjà fait des découvertes des métiers, des secteurs qui existaient à partir de la sixième. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est progressif. C'est un programme de l'État qui s'appelle Parcours Avenir. Je pense que vous avez fait plus ou moins consciemment et qui vous permet donc de découvrir les différents métiers et différentes orientations qui pourraient vous correspondre ou vous plaire. Donc a priori c'est n'importe quand, dès la sixième. Après, dès qu'on arrive, on va dire, vers la quatrième, forcément les choses s'accélèrent et c'est à partir de ce moment-là où on va vraiment se poser les questions de est-ce qu'on va en pro ou est-ce qu'on va en général, par exemple, donc les deux voies possibles après la troisième. Donc je dirais que c'est à partir de la quatrième et milieu de quatrième, c'est un bon moment pour commencer à s'y pencher sérieusement et pas s'y prendre un peu trop tard, je dirais, en fin ou en milieu de troisième, ça commence déjà à être un peu dans l'urgence, donc c'est pas mal de le faire en milieu, fin quatrième.
Comment faites-vous pour orienter un élève?
Alors ça c'est une bonne question déjà, je pense on va essayer de peut-être retourner cette question-là, parce que comment faites-vous pour orienter un élève? En fait, dans la réalité, il ne s'agit pas d'orienter un élève, c'est d'aider un élève à s'orienter. Alors je ne sais pas si vous saisissez la nuance, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que moi je n'oriente pas un élève, je vois avec lui ce qui pourrait lui correspondre. Je ne vais pas lui dire tu devrais faire ça ou tu dois faire ça. C'est pas comme ça que je fonctionne et a priori les conseillers d'orientation ne fonctionnent plus comme ça depuis longtemps. Donc plutôt qu'orienter un élève, c'est vraiment voir ce qui est possible. Alors bien sûr que les notes comptent, mais il y a les notes, hein, mais il y a aussi est-ce que l'élève veut aller plutôt dans le professionnel et faire des études courtes, est-ce qu'il veut faire quelque chose de concret, est-ce qu'il veut faire des études plus générales, plus théoriques, est-ce qu'il veut faire des études longues ou pas, est-ce qu'il est prêt à aller en internat et aller un peu plus loin pour faire des études un peu spécialisées ou pas. Voilà, ça c'est vraiment des questions que je traite en entretien avec chaque élève pour vraiment voir un petit peu ses préférences, essayer de hiérarchiser les priorités de chacun qui sont bien évidemment pas les mêmes. Il y en a qui veulent rester dans le coin, il y en a qui veulent partir, il y en a qui veulent faire des études longues, d'autres pas. Donc déjà on part de ces éléments-là avant de dire voilà, là c'est telle seconde pro, ou c'est telle seconde GT, ou c'est telle première année de CAP. Déjà on part de ces éléments-là pour aider à l'orientation. Ensuite, bien sûr qu'il y a l'avis des professeurs, que l'orientation n'est pas que dans les mains totalement de l'élève, mais moi je m'efforce en tout cas d'ouvrir un maximum de portes avec l'élève en entretien et ensuite de voir ce qui est possible pour la suite, et je me garde bien sûr de choisir pour lui sur tel ou tel critère qui de toute façon ne sera pas les mêmes pour moi ou pour la société que pour lui-même.
Existe-t-il de bonnes ou mauvaises filières d'orientation?
Ça aussi, il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises filières d'orientation, puisque ça voudrait dire que je n'orienterai que dans des bonnes filières d'orientation, ce qui serait un peu présomptueux de ma part. Il y a tout simplement des filières qui sont adaptées à ce que vous êtes et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Donc si on a envie de concret, si on a envie d'être sur le terrain, on a envie de stage, on a envie de travailler en entreprise, là l'orientation en filière pro peut être hyper intéressante. Voilà, pour vraiment avoir plus de temps sur le terrain que à l'école. Puis ceux qui sont au contraire pas à l'aise avec ça et qui préfèrent rester dans le scolaire et dans le théorique, là à ce moment-là, le général est plus adapté. Donc c'est vraiment, ça dépend un petit peu de la personnalité, de la façon d'apprendre, de est-ce qu'on est à l'aise en école, en classe ou pas, ou est-ce qu'on a envie de faire de l'atelier, de bouger. Et puis il y a une troisième possibilité qui est l'apprentissage dont on n'a pas encore parlé. Pareil, l'apprentissage, on est encore plus sur le terrain. Et là, il faut quand même avoir un certain degré d'autonomie avant de se lancer là-dessus. Il faut savoir s'organiser, il faut être discipliné pour pouvoir faire ce genre d'orientation et aller dans ce type de diplôme. Pareil, c'est pas à la portée de tout le monde de faire un CAP en apprentissage.
D'après vous, quelle place doit-on laisser aux parents dans votre choix d'orientation ?
Alors, les parents, ils peuvent être là en tant que conseillers, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous donner des idées, ils peuvent vous dire là je te verrai bien là ou je te verrai pas là. Bon, c'est un avis qui est à prendre en compte, mais qui n'est qu'un avis, et qui n'est qu'un avis aussi, voilà, qui n'est pas exclusif. Des professeurs pourront vous donner ce type d'avis-là, des proches, des copains, même le conseiller d'orientation psychologue, si vous lui demandez, pourra aussi éventuellement vous donner un avis, si nécessaire, mais bien évidemment, ce qu'il faut, la personne que vous devez croire en premier lieu, c'est vous-même. Voilà, c'est-à-dire vérifier les informations qu'on vous dit. Si on vous dit un CAP ici, un bac pro là, c'est à vous aussi de vérifier que, bien sûr, toutes ces informations soient réelles. Il peut y avoir eu des changements. Donc, normalement, le psychologue, il est au courant, mais il peut y avoir des changements. Et c'est encore plus vrai pour vos parents, parce que quand vos parents ont passé leur diplôme et depuis qu'ils travaillent, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des diplômes qui n'existent plus, il y a des métiers qui ont évolué, il y a des métiers qui sont où il y a plus de débouchés qu'avant, et d'autres c'est l'inverse. Donc, et sachant que les critères des parents et des adultes ne sont pas les mêmes que les critères des enfants. Certains vont vous dire que c'est important, c'est de gagner beaucoup, peut-être, pour certains. C'est valable pour certains élèves, c'est valable pour certains parents, pour d'autres non. Donc chacun a des critères un peu différents. Donc c'est un avis à prendre en compte, mais il ne faut pas se fier que à cet avis-là. Il faut aussi voir ce qui est important pour vous et aussi vraiment, voilà, en priorité ce qui est important pour vous. Parce que si vous vous laissez guider uniquement par des adultes et on vous dit voilà c'est bien, voilà t'as des bouchées, le problème d'aller dans ce type d'orientation-là, c'est tout simplement que vous ne vous retrouviez pas à votre place au final. C'est-à-dire que vous ne retrouviez pas votre compte, on vous a dit d'aller là, bon, vous avez des notes correctes ou moyennes, ça passe très bien. Mais au final, est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que vous allez plus avancer sur ce que vous voulez faire plus tard? Pas forcément. Et le risque aussi, c'est ce qu'on appelle le décrochage, c'est au bout d'un moment que ça nous... qu'on délaisse un petit peu tout ça, qu'on ne s'y investisse plus parce qu'on ne trouve pas de sens. Voilà. Et à partir du moment où on a tout simplement suivi le sens des autres, on n'a pas eu son propre sens. Et donc c'est compliqué derrière de le retrouver. Donc d'où l'utilité d'y réfléchir avant et de ne pas trop se laisser porter sur ce genre de sujet, parce qu'après ça peut se retourner contre nous de se laisser porter.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et nous espérons que ces informations aideront nos auditeurs dans la construction de leur parcours à venir.
Allez, un peu d'énergie là!
On soit vieux ou pour la jeunesse, Radio Albigès. Il y en a pour tout le monde. Et hop, c'est parti!
Ah, c'est mieux là!
Oh yeah!
Après avoir écouté l'interview de Monsieur Saïs, nous allons maintenant pouvoir écouter mes camarades Lilou, Asia et Camille qui vont vous expliquer comment trouver un lieu de stage, savoir se présenter, faire un CV et une lettre de motivation.
Bonjour, je m'appelle Lilou Putigier, je suis une élève de 3e au collège Augustin Malroux et je vais vous expliquer comment faire une lettre de motivation lorsqu'on cherche un stage d'observation. Tout d'abord, il faut se présenter, indiquer vos noms, prénom, âge et votre collège. Ensuite, il faut dire clairement que vous recherchez un stage d'observation en précisant bien les dates. Expliquez vos motivations en indiquant les raisons pour lesquelles vous postulez dans cette entreprise-là plutôt que dans une autre. Bien préciser que l'entreprise évolue dans un secteur qui a priori vous intéresse. Faire valoir aussi le fait que vous aimeriez connaître et découvrir les différents métiers proposés par cette entreprise. N'oubliez pas de mettre en avant vos qualités et vos passions, qui permettront de retenir l'attention de l'entreprise que vous contacterez. Pour conclure, votre lettre de motivation doit se terminer en précisant vos disponibilités pour un entretien de visu ou par téléphone. Et n'oubliez pas de rédiger une formule de politesse classique. Attention, votre enthousiasme ne doit pas faire oublier l'orthographe et la présentation. N'oubliez pas que votre lettre de motivation peut être envoyée par email ou par courrier. J'espère que cela vous aidera à faire une lettre de motivation et je vous remercie de m'avoir écouté. À plus tard.
Bonjour, je m'appelle Camille Roulin, je suis également une élève de 3e. Je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à bien rédiger votre CV. Tout d'abord, il faut fournir toutes les informations nécessaires pour que le ou la patronne de l'entreprise puisse vous contacter. Vous pouvez par exemple donner votre nom et prénom, votre âge, votre classe et bien sûr votre numéro de téléphone et adresse. Précisez les moyens de déplacement que vous utilisez, comme la voiture, le bus, le train ou le métro. Ensuite, il est nécessaire de lister vos expériences professionnelles passées. Donc si vous avez fait des stages, vous pouvez les mentionner, ainsi que les différents métiers que vous avez pu exercer auparavant. Vous devez préciser pour chaque poste occupé précédemment les missions et les tâches que vous avez réalisées. Vous devez également mettre en valeur vos compétences en précisant le niveau que vous avez acquis pour que la personne en face de vous ait une idée de vos capacités et de vos envies. Par exemple, vous pouvez parler des choses que vous aimez faire, cuisiner, chanter, dessiner, faire du sport, faire les boutiques, etc. J'espère que mon aide pour rédiger votre CV vous aura plu et à plus tard.
Je m'appelle Asia Bellard, je suis élève de 3e au collège Augustin Malroux. Je vais vous parler de comment faire pour trouver un stage lorsqu'on est en 3e. Alors tout d'abord, choisissez dans quel secteur d'activité vous souhaiteriez trouver un stage. Ensuite, vous choisissez un endroit qui correspond à votre secteur. Avant d'aller voir l'employeur, pensez à bien choisir votre tenue vestimentaire et coiffure adaptée à votre stage. Pendant votre entretien, montrez votre volonté et vos qualités pour ce stage en parlant clairement et poliment. Ensuite, contactez l'employeur par téléphone, email pour fixer un rendez-vous ou bien en se déplaçant directement sur le lieu du stage et il est préférable de lui donner un CV si on en a fait un. Pour finir, soit l'employeur décide de vous prendre, soit il ne préfère pas vous prendre et dans ce cas, il faut chercher un autre stage. Ne vous découragez pas.
Nous allons maintenant nous intéresser aux formations proposées par le lycée de Carmo.
Écoutons pour débuter M. Bégor, proviseur des lycées de Carmo, qui nous présente de manière très brève la différence entre lycée professionnel, lycée général et lycée technologique. Bonne écoute à vous.
Nous, on est un lycée polyvalent, donc on a des filières générales et technologiques et on a des filières pro. Alors, en gros, la différence, les filières générales et technologiques, elles sont faites pour faire des études dites longues. En gros, après un bac général, vous allez continuer sur au moins un niveau licence bac plus 3, voire maintenant aujourd'hui des masters bac plus 5. Le bac général, il sert à ça. Il ne sert pas à aller travailler, par exemple. Le bac techno, c'est un peu la même philosophie aujourd'hui. Le bac techno, il est aussi prévu pour aller continuer à se former, minimum niveau bac plus 2, vers des IUT, des instituts universitaires technologiques. Et aujourd'hui, même les élèves qui ont des DUT, à la fin des IUT, ils continuent vers des masters ou des licences pro. Ou alors d'abord une licence pro et après un master. Hein, certains rentrent dans des écoles d'ingénieurs ou font du doctorat. Hein, c'est le cas du grand frère de votre camarade. Le lycée pro, c'est un peu différent. Le lycée pro, soit après le bac, on peut aller s'insérer dans le monde du travail, soit on continue sa formation vers des BTS. Hein, voilà. Donc c'est des études plus courtes qui vous permettent de vous insérer un peu plus rapidement sur le marché de l'emploi. Voilà la différence. Dans un lycée pro, on apprend des familles de métiers. On n'apprend pas un seul métier. Ça, c'est le niveau CAP, c'est le plus petit niveau. On a ici quelques CAP. Voilà.
Écoutons maintenant d'anciennes élèves du collège Augustin Malroux qui nous ont gentiment accordé un petit peu de temps pour nous expliquer quelles étaient les spécificités de la classe de seconde, les options et aussi leur ressenti à l'entrée dans l'univers du lycée.
Il y a plusieurs options, donc il y a les options de langue, il y a latin et DNL, c'est les maths en anglais en fait. Et ensuite il y a d'autres options sur la santé sociale. Après personnellement on ne les connaît pas toutes parce que on ne les fait pas toutes. Après la DNL, on vous en parle normalement. En fait, nous, l'année dernière, les 3e, on avait reçu un prospectus qui présentait la DNL et aussi il y avait eu un intervenant qui était venu, il me semble.
Ouais, le prof de DNL.
Ouais.
C'est juste en fait pour t'améliorer en anglais. Tu es obligé de parler en anglais pendant tout le cours. Enfin,
c'est cours de maths.
Tu parles en français. Et en fait, si tu décides de la poursuivre jusqu'au bac, à ce moment-là, tu auras une mention sur le bac, c'est mention européenne. Du coup.
Est-ce que vous pensez que la classe de seconde est plus difficile que la classe de troisième ? Sur la filière générale.
Non, en vrai, pas plus que ça.
C'est
ça
juste va. Le prolongement de la troisième, quoi. Comme la troisième, c'est le prolongement de la quatrième.
Donc, vous apprenez des nouvelles choses, mais c'est pas vraiment difficile, enfin, c'est pas un bon niveau.
Non. Parce qu'après, on revoit aussi les choses qu'on a faites en troisième.
Mais plus en profondeur.
Voilà.
Voilà. Exemple, les pourcentages,
ouais,
les vecteurs et tout.
Vous voulez savoir si vous aviez beaucoup de devoirs par rapport au collège ?
Ça, ouais.
Moi, pas spécialement. Ça dépend des classes, des professeurs.
Après, on fait beaucoup plus de contrôle aussi.
Ouais.
Et du coup, je pense que les profs d'ici attendent vraiment qu'on étudie vraiment chaque cours souvent pour bien l'intégrer.
Par exemple, ma prof d'espagnol, à chaque cours, on fait une trace écrite et pour le cours suivant, on doit la prendre par cœur et elle interrogera 5 élèves au hasard. Elle est notre homme. C'est comme ça à chaque cours.
Il y a moins de travail personnel, si on peut dire, en termes d'exercice ou de travail écrit, mais il y a de l'étude régulière. Il faut étudier les leçons régulièrement et tous les soirs, revoir les leçons des cours qu'on a le lendemain. C'est plus de travail régulier. Mais en quantité, je pense que par rapport au collège, moi, vous en avez moins de travail écrit personnel. Il y a moins d'exercices.
Après, quand c'est des exercices, c'est plus long. Oui. Les études linéaires et tout.
Quelles sont vos fournitures scolaires, enfin, je veux dire, parce qu'apparemment, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de...
Non, mais effectivement, il n'y a pas de liste. Mais en fait, quand vous arrivez au lycée et que vous rencontrez chaque professeur, il va vous dire qu'est-ce que lui, il veut pour sa matière. Mais en général, c'est vous choisissez ce que vous voulez, ils s'en moquent, mais des fois, il y en a qui veulent des choses précises. Comme par exemple en maths, on est obligé d'avoir des cahiers petits carreaux.
Comment s'est déroulé votre premier jour de rentrée ?
Est-ce que c'est stressant ? Est-ce que ça se fait tout seul ? Est-ce que tu es perdu ?
Ouais.
Oui, tu peux dire que tu as changé.
Là. Ok. Personnellement, le premier mois, pendant le mois de septembre, j'étais à fond la bourre. Donc, quand tu es dans un autre lycée, que tu connais personne, que tu sais rien sur ce lycée, quoi, à part la visite, ben ouais, c'est un peu stressant parce que tu connais personne. En plus, si tu es en internat, ouais, ça rajoute un peu de stress. Mais après, finalement, tu arrives dans ta classe, tu vois les gens et puis tu vois qu'ils sont sympas et après, ça va mieux.
Nous allons terminer cette chronique sur la distinction entre lycée général, lycée professionnel et lycée technologique en donnant la parole à la CPE des lycées de Carmo qui va vous expliquer de manière très claire les modalités d'organisation d'une rentrée au sein du lycée de Carmo avec tout ce qu'il faut savoir pour aborder cette rentrée de manière plus sereine. Nous espérons que cette petite chronique va bien vous aider.
Le premier jour de la rentrée, pour vous rassurer, vous êtes tous attendus. Alors on fait des tranches, hein. Donc vous savez dans quelle classe vous allez rentrer et on va vous dire c'est tel jour à telle heure. Vous pouvez venir avec vos parents ou vous pouvez venir tout seul. Vous êtes rassemblés à l'amphithéâtre. Vous ne l'avez pas visité peut-être, mais c'est une grande salle qui contient 250 élèves. Donc vous vous asseyez, le proviseur, il présente toute l'équipe, il vous donne un mot de bienvenue, il vous explique comment va se passer la journée, et puis il appelle la première seconde, la seconde 1, etc. Donc les élèves entendent leur nom, plus personne ne se lève pour le laisser faire l'appel, et quand il a fini d'appeler toute la classe, il dit « Allez, les élèves de la seconde 1, vous vous levez et vous suivez votre professeur principal. » Donc là, tout le monde se lève de la seconde 1, suit le professeur, et vous allez en classe. Et là, en classe, c'est le professeur principal. Il va passer la journée avec vous. à vous souhaiter la bienvenue, à visiter le lycée, à vous remontrer où c'est qu'il y a la cantine, où c'est qu'il y a l'infirmerie. On s'occupe des problèmes matériels, que tout le monde ait sa carte jeune, parce que la carte jeune que vous avez déjà, mais que si vous n'avez pas, vous devez faire aussi durant l'été. La carte jeune, elle a plusieurs fonctions. Elle permet de rentrer au lycée. Pour rentrer au lycée, on passe la carte jeune et ça ouvre le portillon. Si on n'a pas la carte jeune, on est obligé de sonner, d'attendre que l'agent d'accueil vous demande pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous venez faire, etc. Donc, si on a la carte jeune, eh bien, on est autonome, on rentre et on sort comme on veut. Et cette carte jeune, elle vous permet aussi de manger à midi ou le soir si vous êtes interne à la cantine. Quand vous passez la carte dans la machine, ça vous distribue un plateau. Voilà, donc la carte jeune, elle est importante. Donc, le premier jour, on règle tout ça. Qui c'est qui a besoin de la carte? Qui c'est qui a besoin de la carte? On parle du règlement intérieur, on visite l'établissement, on fait connaissance avec les camarades de classe et d'où tu viens, de quel collège, on voilà. Et vous passez toute la journée avec le professeur principal. Et ensuite, pendant la même semaine de rentrée, vous avez des ateliers. Vous allez avoir 3 demi-journées qui sont banalisées, où c'est que vous allez avoir des séquences d'une heure, donc de 9h à midi et de 14h à 17h. Donc 6 ateliers différents sur une même journée. Un atelier sur la cantine, par exemple, sur le restaurant scolaire, où on vous explique dans le détail comment ça marche, etc. Un atelier sur le fonctionnement de l'infirmerie, un atelier sur le fonctionnement de la vie scolaire, un atelier sur le respect du matériel et de la propreté dans l'établissement et de la sécurité, un atelier sur la citoyenneté. Voilà, vous avez des tas d'ateliers comme ça où on vous explique un certain nombre de choses. Et puis après, au bout de 3 jours, eh bien, on vous dit, si vous êtes rentré le lundi, à partir de jeudi, c'est l'emploi du temps, on commence. Et sur les 3 premiers jours, là, vous aurez aussi fait connaissance avec tous vos professeurs qui seront venus vous voir et qui vous auront dit, moi, je m'appelle Madame Antenin, je suis en mathématiques, je veux un petit cahier à gros carreaux, à petits carreaux, etc. Mais vous savez, au lycée, globalement, la plupart des professeurs, ils vont vous laisser écrire sur ce que vous voulez. Un grand cahier, un petit cahier, des feuilles, un classeur, vous vous organisez comme vous voulez. C'est ça qu'il vous faut comprendre. La différence entre le collège et le lycée, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Vous devenez des grands. Tout d'un coup, on vous traite comme des grands. Voilà. Et donc, vous vous organisez comme vous voulez, pourvu que vous soyez organisé.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès 95.4 à 104.2 sur la bande FM dans le Tarn et partout ailleurs sur radioalbigès.com. Vous écoutez une émission spéciale de découverte du monde professionnel et du parcours d'orientation. Une émission réalisée par des élèves de 3e du collège Augustin Malroux à Blaye-les-Mines dans le cadre de leur parcours à venir. Une émission réalisée avec Madame Cabane, professeure de sciences et vie de la Terre, et Monsieur Suarez, professeur documentaliste, en partenariat avec Radio Albigès.
Après une pause musicale, nous allons écouter Lucas qui va nous expliquer la différence entre le lycée général et le lycée professionnel. Maxence nous proposera une présentation du fonctionnement du CFA. Enfin, Lina et Jade nous présenteront les compagnons du devoir.
Tout d'abord, comme tous les lycées, le lycée professionnel permet de préparer un diplôme. Dans un lycée professionnel, on peut passer un CAP ou un bac professionnel. Dans un lycée général, on passerait un bac général ou un bac technologique. Ce sont 3 diplômes de même niveau de qualification. Le niveau 4 correspond au bac, mais avec des objectifs différents. L'objectif du baccalauréat professionnel est avant tout l'insertion dans la vie professionnelle. Mais avec un bon dossier scolaire, les élèves ayant obtenu leur bac pro peuvent continuer en BTS. Le BTS est un brevet de technicien supérieur, dans un domaine correspondant à leur bac. En lycée professionnel, on apprend un métier pour rentrer rapidement dans la vie active. Les élèves suivent des enseignements professionnels dans les ateliers et font des stages obligatoires en entreprise pendant leur temps scolaire. L'objectif du baccalauréat technologique est la poursuite d'études vers l'enseignement supérieur, essentiellement vers des études de technicien supérieur, BTS ou DUT, bien adaptées à leur formation technologique. Avec un bac général, les élèves sont une solide culture générale pour pouvoir poursuivre des études supérieures. Après un bac général ou technologique, on peut continuer sur ses études, soit à l'université, entre parenthèses la fac, soit dans des lycées, BTS par exemple, soit dans des écoles école d'ingénieur, école de commerce, etc. C'est dans des études qu'on apprend un métier.
Comment se fait l'accès à un bac professionnel ?
L'accès peut se faire soit après la classe de 3e, soit après un CAP, ou encore après une seconde générale et technologique, dans le cadre d'une réorientation. En fin de 3e, lors des vœux d'orientation, les élèves choisissent parmi les familles de métiers ou les spécialités du bac professionnel. 10 familles de métiers sont proposées en seconde professionnelle à la rentrée 2020. Nous avons eu une brochure de l'ONICEP distribuée en classe au collège avec les informations sur les filières après la 3e et les lieux de formation. Sur le site de l'ONICEP, que j'ai utilisé pour mes recherches, vous trouverez de nombreuses informations et pensez aussi à prendre rendez-vous auprès du psychologue de l'éducation nationale chargé d'orientation. Il vous aidera et sera même de répondre à vos questions. Un bac professionnel peut être suivi par la voie scolaire dans les lycées professionnels ou par la voie de l'apprentissage dans les CFA, centres de formation d'apprentis. Je laisse la parole à Nassim qui va vous expliquer ce qu'est un CFA.
Du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur, tous les diplômes peuvent se préparer en apprentissage. Le principe de l'apprentissage, c'est de suivre une formation alternée entre CFA et une entreprise. Le rythme est variable en fonction des formations. 2 jours en CFA, 3 jours en entreprise ou 1 semaine en CFA. 1 semaine en entreprise ou encore 2 semaines en CFA, 3 semaines en entreprise. Certains secteurs d'activité sont plus ouverts aux apprentis préparant un CAP. D'autres recherchent plutôt, par exemple, des bacheliers pro préparant un BTS. Aussi, renseignez-vous auprès des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que sur le site du ministère de l'Éducation nationale, pour découvrir la formule qui correspond le mieux à vos attentes et à celle du monde professionnel.
Nous allons maintenant écouter l'interview de Monsieur Marty, pâtissier à Carmaux, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans son atelier. En 3e à Augustin Malroux à Blaye-les-Mines. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Marty et nous allons lui poser quelques questions.
Tout d'abord, pourriez-vous me présenter votre entreprise ?
Disons qu'on est situé 17 avenue Jean Jaurès à Carmaux. Voilà, je suis pâtissier. C'est une pâtisserie, chocolaterie artisanale.
Quelle étude faut-il faire pour exercer ce métier ?
En fait, il faut avoir soit faire un bac pro ou avoir un CAP pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, comme j'ai dit. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'études très élevé.
Quel a été votre parcours ?
Mon parcours, alors j'ai passé j'étais apprenti à Gaillac, à la pâtisserie de Nille. Ensuite, je suis parti à la panetière à Saint-Juéry pendant 17 ans. J'ai fait un peu tous les postes. Et ensuite, en 2004, je suis travaillé à la boulangerie Fabre, au four de Ségala, pendant 9 ans. Et ensuite, j'ai été 3 ans et demi à côté au four à bois, à votre de m'installer ici. C'est ma 3e année ici.
Quels sont vos horaires de travail ?
Alors, mes horaires de travail, c'est je commence en semaine à 4h du matin. Après, de travail, oui, si je vous dis, je finis à 15h. Normalement. Et le dimanche, je commence à 3h, 1h plus tôt, parce qu'on a plus de clients, on vend plus de gâteaux. Et je finis à 13h. On ferme le magasin à 13h.
Et est-ce que votre salaire vous paraît convenable ?
Je gagne mieux ma vie en étant salarié que patron. Là, je suis au SMIC, je veux dire, tout juste.
Vous ne regrettez pas quand même ce changement ?
Non, du tout. C'est quelque chose que je voulais et puis je me dis, ça paiera un jour ou l'autre. Mais les débuts sont très durs. Déjà, c'est très cher de racheter une pâtisserie. C'est un gros budget qui se paie sur une période assez courte. Hein. Donc voilà, ça fait. Donc, il faut faire quelques sacrifices. Hein. Faut pas. Mais j'ai pas fait ça pour ça non plus. Hein. Mais ça parce que j'ai mon métier, je m'éclate au moins. Hein. J'ai pas un patron qui me dit, qui est au-dessus de moi, voilà, qui me dit oui ou non, je fais ce que je veux. Hein.
Comment se déroule une journée type ?
En premier, déjà, il faut faire une liste de tout ce qu'on va faire en pâtisserie. Ensuite, il faut faire la crème pâtissière, la cuire, la laisser refroidir, préparer tous les petits gâteaux qu'on a à faire, les tartelettes, les éclairs, voilà, le garnissage, la finition. Ça se fait pour les gros gâteaux, pareil.
Combien avez-vous d'employés ?
J'ai 3 employés. J'ai 2 22 ans. Et un pâtissier qui m'aide.
Quelles sont les contraintes et les avantages de votre métier ?
Alors, les contraintes, c'est les horaires décalés, parce qu'on travaille la nuit. Donc voilà, si on est invité le soir, on ne peut pas se coucher trop tard. Et puis, il faut se lever tôt le matin, c'est pas facile. Et après, les avantages, c'est qu'on fait un métier par passion. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
En fait, ce métier, j'ai fait des stages. J'étais en quatrième, donc j'étais pas très bon à l'école. J'ai fait des stages, j'ai essayé 5 métiers différents. Et en fait, moi, c'était la boulangerie qui m'avait plu le plus. Et comme j'ai pas trouvé après de patron, quoi, on dira, du coup, je me suis lancé dans la pâtisserie comme ça.
Quelle est la durée de vos congés ?
La durée de mes congés, je le prends une semaine par an.
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
Et en équipe, je travaille mon pâtissier.
Pour finir, si vous pouviez changer de métier, le feriez-vous et dans quel domaine ?
Non, je crois pas que je pourrais faire autre chose que si j'ai toujours fait ça. Je ne vois pas faire autre chose, franchement. Parce qu'il n'y a rien qui me plaît vraiment à part ce pâtissier, franchement.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et nous espérons que ces informations aideront nos auditeurs dans la construction de leur parcours à venir.
Avec plaisir.
Nous allons maintenant écouter l'interview de Madame Zamolo, qui nous a accueillis dans son entreprise Palmerie Mécanique le 3 décembre 2019. Elle nous a fait visiter les différentes parties de l'atelier et a très gentiment répondu à nos questions. Bonne écoute!
Alors bonjour, je m'appelle Camille, je suis une élève de 3e. Au collège Augustin Malraux à Plaille-des-Mines. Donc aujourd'hui on est avec Madame Zamolo, donc une dame qui travaille à l'entreprise Palmerie Mécanique. Et donc on va vous poser quelques questions.
Oui. Alors moi j'occupe la fonction, j'ai un titre très pompeux qui s'appelle responsable supply chain. Donc vous entendrez souvent ce nom-là dans l'industrie. C'est en fait responsable de l'approvisionnement, mais à tous les niveaux, que ce soit technique, achat, commercial, logistique, transport, etc. Donc moi je me définis mon processus par rapport à la qualification EN, c'est l'araignée de l'entreprise. C'est-à-dire que je dois être au courant de tout et je dois répondre à tout le monde. En temps et en heure. La seule chose que je ne fais pas, c'est répondre aux clients sur les délais ou le technique proprement dit de l'entreprise. Voilà. En français, je ne sais pas trop comment ça se traduit. Approvisionneur, mais ça ne veut rien dire, approvisionneur. Pour moi, ça ne signifie rien. Mais vous allez surtout entendre le terme de supplier ou supply chain. Voilà. On est structuré de façon à minimiser les gens administratifs qui sont considérés comme des non-productifs. Je ne suis pas tout à fait pour, mais c'est comme ça. Et de prioriser tout ce qui est technique dans l'atelier, parce qu'en fait, ben, c'est eux, à la fin du mois, qui nous permettent de payer les factures.
Quelles études faut-il faire pour exercer ce métier ?
Alors, c'est des études spécifiques. C'est une chaîne où il y a malheureusement peu de candidats. qui, alors ça a des abréviations qui changent chaque année, donc je ne vous dirai pas cette année comment elle s'appelle, hein, mais c'est le secteur de l'usinage, technicienne d'usinage, qui a une mauvaise image auprès des jeunes, hein, parce que ça leur semble sale, fatigant, etc., alors que c'est un métier passionnant que de pouvoir créer.
Quels sont vos horaires de travail ?
Alors, l'atelier tourne en 3-8, continue, sauf samedi, dimanche, hein, où là, les machines travaillent toutes seules, hein, grâce au palettiseur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Sinon, l'administratif tourne à la journée, du lundi au vendredi, sur des horaires par contre de 39 heures. On fait partie du secteur de la métallurgie. C'est un décret qui a été passé avec la métallurgie et donc on est en 39 heures.
Est-ce que votre salaire vous paraît convenable ?
Je voudrais gagner 300 millions et payer 1 milliard d'impôts. Mais il faut se remettre dans le contexte. Alors, je ne vais pas être féministe, mais une femme doit toujours prouver plus qu'un homme qu'elle est capable de faire. Je ne me plains pas de mon salaire, hein. Je vis correctement, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à demander mieux et plus. Sachant qu'on a la région toulousaine qui est dans le même milieu que nous avec Airbus qui donne des salaires astronomiques, c'est vrai que je pourrais aller travailler sur Toulouse et avoir le double de salaire. Aucun intérêt pour moi. On est bien, Carmo. Voilà, donc oui, je voudrais gagner plus parce qu'on veut toujours gagner plus, mais j'estime que je suis payée honnêtement par rapport à ce que je fais. Et tous ceux d'ici d'ailleurs. On n'a personne au SMIC. Voilà, ou ceux qui rentrent sont au SMIC, le temps qu'on apprenne à les connaître, mais après ils sont augmentés par rapport à leur capacité.
Quelles sont les principales tâches de ce métier ?
D'usineur ? Donc, dans un premier sens, c'est la fabrication de la pièce, la programmation de la pièce, mais il faut avoir une rigueur et un sens de la propreté.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, énormément, au grand détriment de mon compagnon. Oui, j'aime mon métier parce que chaque jour est une nouvelle découverte. Le matin, je peux arriver avec un dossier sur mon bureau en me disant « Bon, aujourd'hui, je vais travailler sur ça. » Je repars le soir, je dis « Bon, mais je travaillerai demain. »
Comment se déroule une journée type ?
On n'a pas de journée type parce qu'on n'a pas de produit propre palmierie. On ne fait que sur des pièces sur commande. C'est-à-dire que le client nous commande une pièce ou des pièces. Alors, une affaire d'une sorte de famille de pièces et elles sont à chaque fois différentes. Il y en a certaines qui reviennent, mais comme j'expliquais, je pense que c'est à vous, je disais, on a des familles de pièces qui se ressemblent, mais il y a toujours quelque chose de différent. Donc, on a une personne qui s'appelle Xavier, qui travaille aux méthodes. Donc, les méthodes, c'est la conception de la mise en fabrication. Ce n'est pas la programmation, hein, c'est deux choses différentes. La programmation, c'est on rentre... En fait, les méthodes de travail qu'a préparé donc cette personne. Donc, il a le dossier client, le cahier des charges client. Le client, il veut voilà, la pièce, qu'elle soit comme ça, comme ça et comme ça. Et lui prépare par rapport à ça tous les éléments permettant la fabrication.
Combien avez-vous d'employés ?
Actuellement, on est 47. Et on voudrait embaucher, sauf que cette chaîne de formation est très peu demandée par les adolescents comme vous, et ça fait qu'il y a très peu de gens qui sont intéressés, et on a du mal à trouver des salariés.
Quelles sont les contraintes et les avantages de votre métier ?
Les contraintes, c'est quand même un travail physique. Parce qu'il faut être vigilant tout le temps. Parce que je parle de l'usinage, hein, toujours. Parce que les machines sont dangereuses, hein, que ça peut coûter très cher une faute d'inattention. Donc c'est pour ça qu'on a un service contrôle qui intervient à la première pièce, au premier article, pour contrôler si la pièce est bonne ou pas, ou s'il faut modifier et si on peut continuer l'usinage. Il y a certaines pièces même qu'on fait valider par le client, parce que nous on la trouve bonne, mais comme c'est de la fourniture en matière client, puisqu'on est à peu près à 50-50, l'aéronautique on n'achète jamais, c'est eux qui fournissent ça. Et donc on leur fait valider les pièces pour dire bon, vous êtes d'accord avec ce qu'on va fabriquer? Oui, non, oui, bon, ok, on continue.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier?
La curiosité, apprendre.
Quelle est l'évolution possible de votre carrière?
Au poste actuel, mis à part de racheter l'entreprise et de remplacer mon patron, j'ai personne au-dessus.
Quelle est la durée de vos congés?
On est à 30 jours par an. Et ouais, profitez bien des vacances.
Travaillez-vous seul ou en équipe?
Alors, on est tous en équipe. Il n'y a pas vraiment de personnes solitaires. Dans l'atelier, ce sont des équipes. Ils travaillent par deux ou par quatre, suivant le poste qu'ils occupent, mais ils travaillent en équipe. Nous, dans les bureaux, même si on a des fonctions différentes, on travaille en équipe parce qu'on est forcément liés. Donc, je dirais que oui, Palmieri est une équipe. On prend beaucoup de stagiaires. D'ailleurs, on a eu un prix pour ça. Parce qu'on estime que l'école, c'est bien, mais former en entreprise, c'est bien aussi. Donc moi, je valorise toujours les études par alternance. Parce qu'on s'est aperçu, en fait, que les apprentis qui venaient, les stagiaires qui venaient chez nous, qui n'avaient fait que de la théorie, en savaient beaucoup moins que ceux qui avaient fait des études par alternance. Je dirais il y a 50% du personnel où ce sont des stagiaires qui sont venus faire un stage de 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois suivant leur statut et qui ont passé leur diplôme, on leur a dit quand t'as fini tu reviens nous voir. Ben il y en a qui sont là pour ça. Et c'est bien parce que c'est valorisant de se dire ben, s'ils se représentent dans l'entreprise, c'est qu'ils étaient bien. Voilà.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et nous espérons que ces informations aideront vos auditeurs dans la construction de leur parcours à venir.
Je vous remercie.
Merci. Radio RPG, c'est sur 95.4, 104.2.
Je traîne les pieds, je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école.
La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Garogory.
Écoutons maintenant Monsieur Dora qui dirige la carrosserie du même nom à Carmo. Il nous a reçus le 10 décembre dans son entreprise hein, et nous a accordé son temps pour répondre à nos questions. Un grand merci à lui.
Je m'appelle Nassim, je suis élève en 3e au collège Augustin Malroux à Valémy. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Dor et nous allons poser des questions.
C'est une catastrophe! Regardez-moi ça! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, on ne veut plus
voir. Hein?
Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre entreprise concernant votre métier?
Alors, nous, on fait principalement de la carrosserie, de la peinture. La carrosserie appartient à mon père. Mon père a fait une création en 81. Il est venu ici, il a monté les locaux en 91. Et on a repris il y a 8 ans à peu près. Donc aujourd'hui, on est 8, 9. Donc une fille à l'administration qui fait tous les papiers, la comptabilité, voire deux même, ils sont. Et après, le reste, c'est dans l'atelier.
Quelle étude faut-il faire pour exercer ce métier?
Il y a plusieurs parcours. Soit après la troisième, on part en CAP carrosserie, 2 ans, un BEP peinture. Après, on peut évoluer sur le bac pro et aujourd'hui, plus pousser sur des BTS. parce qu'on a le métier qui se transforme, qui devient de plus en plus technique, les véhicules qui le deviennent, les caméras, les... Et après il y a l'autre parcours comme un dire on part en bac pour avoir déjà le niveau général. Et après, soit on intègre de suite une carrosserie, mais moi j'avais la chance d'être chez mon père. C'est plus compliqué. Mais on peut avoir plusieurs métiers, plusieurs filières pour arriver à être carrossier. Il y a le GNFA aussi. Et la chambre des métiers et le GNFA.
Quels sont vos horaires de travail?
Les miennes, c'est 6h à 7h le matin. Je mange pas à midi et je rentre le soir à 8h, à 9h. Du lundi au jusqu'au samedi, maintenant c'est du lundi au vendredi.
Est-ce que votre salaire vous paraît convenable?
J'ai mon beau-frère à la maison qui a 16 ou 17 ans. L'autre jour il m'a dit, ouais mais toi tu gagnes bien ta vie. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu entends par bien gagner ta vie? Qu'est-ce que tu entends par bien gagner sa vie? Dis-moi. 1000, 2000, le SMIC est à 1000, 2000, 3. 1000, 2000, 3000, 5000, 10000. Non, parce que j'ai mon petit, enfin, le beau-frère là qui m'a dit eh ben, au moins 5000. Non. J'aimerais, mais non, pas encore. Non, on gagne bien sa vie, mais on gagne pas 5000 euros. On est plus dans les 2000. Un salarié, s'il bosse bien, il est à. Dans l'équipe, à part le plus jeune qui est rentré en septembre, sinon. Un salarié tourne entre 5006 à 1009 salariés. Donc lui c'est 8h à midi et 14h à 18h. 39h par semaine.
Quelles sont les principales tâches de ce métier?
À la base c'était la carrosserie, c'est la tôlerie et la peinture. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le métier a évolué. On rentre sur des véhicules qui sont de plus en plus complexes, avec beaucoup d'électronique, des caméras. Donc aujourd'hui c'est la carrosserie, fait la tôlerie, la peinture, on fait la clim, et là on rentre un nouveau système qui s'appelle le calibrage ADAS pour reparamétrer tous les véhicules pour qu'ils freinent quand il faut, qu'ils gardent le maintien de bois. Ah toujours voulu faire ça. Faut aimer. Si t'aimes pas ce que tu fais, pas la peine. Ça vaut pour tous les. Enfin, pour tous les corps de métier, si tu n'aimes pas ce que tu fais le matin quand tu te lèves, c'est pas la peine. Faut aimer, faut bien trouver. Moi, en l'occurrence, j'ai toujours voulu faire ça.
Quels sont les avantages de votre métier?
Les contraintes, des fois, faire passer la vie professionnelle avant la vie de famille. Hein.
Les avantages.
Là, je peux prendre du temps pour vous. Après, il y en a d'autres. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Il faut arriver à avoir une ligne, mais elle est très compliquée à tenir.
Nous avons eu de la chance d'être accueillis au commissariat de Carmaux pour une visite très enrichissante. Je vous laisse en découvrir le contenu. Nous tenons encore à remercier les deux policiers qui nous ont fait découvrir leur métier.
Bonjour, je m'appelle Lina, je suis élève en 3e au collège Augustin Malroux à Blaye-les-Mines. Aujourd'hui, je suis avec Madame Accard, commandante, et nous allons lui poser quelques questions.
Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre lieu de travail et le service dans lequel vous travaillez?
Alors ici, nous sommes dans la circonscription de police de Carmaux, circonscription de sécurité publique de Carmaux. Dans notre circonscription, nous avons 3 communes sur lesquelles nous travaillons. Il y a Carmaux, Blaye-les-Mines et Saint-Benoît-de-Carmaux.
Quel étude faut-il faire pour exercer ce métier?
Alors, pour faire le métier que je fais, c'est-à-dire officier de police, il fallait que j'ai une maîtrise de droit, un bac plus 4. Et donc, ensuite, pour les corps des gardiens...
C'est le bac. Le bac. Externe.
Quel a été votre parcours?
Alors, moi, j'ai fait une maîtrise de droit à Toulouse. Ensuite, j'ai passé le concours d'officier de police en 2002, que j'ai eu. Je suis partie 18 mois en école de police en région parisienne. J'ai été affectée à Paris pendant 10 ans, au commissariat du 2e arrondissement, et ensuite je suis arrivée ici, à Carmaux.
Quels sont vos horaires de travail ?
Alors pour ma part, je travaille du lundi au vendredi aux horaires de bureau, de 8h à midi et de 14h à 18h. Mais je fais aussi des week-ends astreintes, c'est-à-dire que je suis chez moi et je peux être appelée s'il y a un événement particulier. Sinon, il y a d'autres cycles de travail qui existent. Les gens qui travaillent la nuit, ils travaillent de 21h à peu près jusqu'à 5h du matin. Et ensuite, il y a deux brigades de journée qui travaillent en journée, on appelle ça le roulement. Toujours quelqu'un dehors dans la police.
Il y a des collègues qui travaillent, qui font que les nuits, d'autres qui font que les journées, par-ci que les journées. Je travaille le week-end, sur les jours fermés, les jours de nuit.
Est-ce que votre salaire vous paraît convenable ?
Oui, mon salaire me paraît convenable.
Quelles sont les principales tâches de ce métier ?
Alors mon métier que j'exerce ici, parce que je suis l'adjointe au chef de la circonscription de Carmaux, je fais essentiellement de l'encadrement d'effectifs et je gère au quotidien l'opérationnel, c'est-à-dire les événements qui peuvent survenir sur la circonscription.
Les brigades, c'est plus le travail principal des brigades, c'est la police locale. Hein, les gens font 17, après les gens sont à la maison et ils vont voir ce qui se passe. Donc c'est le plus gros du travail. Et après, hormis la police secours, ils vont travailler sur du code de la route aussi, puisque ça fait partie du travail aussi. Donc beaucoup de contrôles routiers nous permettent aussi d'arrêter des délinquants et des délinquants routiers. Et puis voilà, et après, bon, maintien de l'ordre, mais on en fait beaucoup moins. Et
voilà.
Les accidents aussi. Les accidents, ça fait partie de la police secours. Le plus gros travail, c'est la police.
Aimez-vous votre métier ?
Oui, j'aime mon métier.
Comment se déroule une journée type ?
Eh bien, dans la police, il n'y a pas vraiment de journée type, parce que tous les jours est un jour différent, et c'est parce que notre activité dépend des événements du jour. Donc, en général, on essaie de faire... Il y a des choses qu'on fait tous les jours pareil, c'est-à-dire le matin, quand on arrive, on prend connaissance de tout ce qui s'est passé pendant la nuit, on organise le travail de la journée, on a des objectifs aussi... à faire, donc ça. Mais sinon, c'est essentiellement c'est les événements de la journée qui vont rythmer notre travail, notre rythme de travail.
Pour quel type d'intervention vous vous déplacez le plus souvent ?
Sur Carmaux, ça va être des différents, je pense. Beaucoup, beaucoup de différents, des différentes familles, des différents de voisinage, des choses comme ça. On a beaucoup aussi des personnes alcoolisées, que ce soit au niveau du routier, au niveau des républiques et manifestes, et puis la peine de bavard. Et puis après, tout ce qui est volet fraction, les DPE, c'est à peu près qu'en particulier ce qui ressort le plus sur une circonscription comme la Carmaux.
Quelles sont les contraintes et les avantages de votre métier ?
Les contraintes, je dirais, plus les horaires, parce que très souvent, on commence une journée et puis en fonction de l'événement, des fois, on ne rentre pas le soir à la fin du travail, on est obligé de rester, ou on est obligé de revenir sur les week-ends, les jours fériés, quand on ne travaille pas d'habitude. Et pour moi, ce que je trouve bien dans ce travail, c'est justement qu'on ne fait jamais la même chose.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ?
Moi, c'est parce que j'aime les choses... droite et carrée, j'aime qu'on respecte la loi et j'aime la faire respecter. Et c'est aussi pour venir en aide aux gens.
Voilà. Parce que, hormis ce que peuvent croire les gens, on vient plus souvent en aide aux personnes que ceux qu'on les verbalise, par exemple. La personne va se souvenir que la police l'a verbalisé parce qu'il s'était mal garé le jour du marché. Et le 80% du travail, c'est de l'assistance aux personnes.
Quelle est l'évolution possible de votre carrière ?
Dans chaque corps de la police, que ce soit le corps de conception, le corps de direction, le corps de commandement, on peut toujours évoluer. On prend de l'ancienneté, on va dire, du grade supérieur. Mais aussi, on peut basculer d'un corps à l'autre via des concours, des examens. On peut passer en interne. Et on peut, si on veut, commencer gardien de la paix et finir commissaire si on se donne la peine, si on travaille,
si...
On étudie aussi.
Ce que j'ai pas fait. Mais après, bon, on a le corps de CEA, encore à moi, on peut évoluer également, du gardien de la paix, on peut aussi passer des examens pour mon temps.
Quelle est la durée de vos congés?
Alors, mais un peu comme tout le monde, je crois, j'ai 25 jours de congés annuels, ouais. 5 semaines, et puis on a des RTT, voilà, quelques RTT.
Et comment s'organise votre métier lorsque vous êtes en équipe?
Il y a des brigades. Il y a plusieurs équipes, on va dire, dans un commissariat. Il ne peut pas y avoir qu'une seule équipe. Puisque déjà, en fonction des brigades, on va avoir des horaires différents. Donc, du coup, les brigades elles vont plus s'organiser entre elles. Il va y avoir un chef de brigade. C'est-à-dire qu'on a alors, 3 brigades de jour, une brigade de nuit. On aura un chef de la brigade de nuit, 3 chefs pour les brigades de jour qui vont se gérer eux. Et ensuite, nous, on va chapeauter ces brigades-là, ces chefs de brigade. Donc ça va être là. Le côté UAPP, donc le côté tenue. Ensuite, il y a le côté civil, donc des collègues de la BSU, qui font partie d'un groupe entre eux, qui se débrouillent entre eux. Voilà. Au niveau congé, au niveau organisation, au niveau travail, etc.
Après, un policier ne travaille jamais tout seul. C'est un travail d'équipe avant tout. On n'est jamais tout seul. Notre métier a évolué, mais comme évolue la société, comme on a dit tout à l'heure, moi, je suis dans la police depuis à peu près 15 ans, et j'ai trouvé que il y a beaucoup plus de violence au quotidien et de plus en plus jeune. On était confronté à des gens beaucoup plus virulents et malheureusement, ça commence très jeune.
Pour finir, si vous pouviez changer de métier, le feriez-vous et dans quel domaine?
Moi, personnellement, non, je ne changerai pas de métier. Donc, je ne sais pas si mon collègue...
Je ne sais rien faire d'autre. Mec, il nous garde.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et nous espérons que ces informations aideront nos auditeurs dans la construction de leur parcours à venir.
Merci.
Merci beaucoup.
Nous espérons que cette émission vous aura plu et pourra vous venir en aide si vous vous retrouvez dans le même cas que nous. Je vous propose maintenant de faire un petit tour de table pour recueillir les différentes impressions de mes camarades. Oui, Jade.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand on est allé visiter le commissariat, on a vu des cabines de prisonniers. Et du coup, c'était intéressant.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est d'avoir de s'être enregistré avec tout le reste du club.
J'ai beaucoup aimé faire des visites dans les différentes entreprises.
Moi, ce qui m'a plu, c'est d'avoir parlé au micro et d'avoir créé notre propre émission.
Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est quand nous sommes allés à la carrosserie de Monsieur Dor. Car j'ai pu voir comment cela fonctionnait et cela m'a beaucoup plu.
J'ai bien aimé aller à la boulangerie-pâtisserie de Monsieur Marty et j'ai bien aimé les macarons. Merci.
Moi j'ai bien aimé le commissariat et la boulangerie de Monsieur Marty.
À titre personnel, j'ai bien aimé toutes les sorties qu'on a faites et j'ai bien aimé m'enregistrer. Car ça m'a fait découvrir ce qu'étaient des émissions de radio.
Si là, juste à titre personnel, donc mon avis subjectif, j'ai bien aimé visiter ce genre d'endroit et j'ai bien appris des trucs.
Ce que j'ai le plus aimé, c'est visiter le poste de police et visiter les cellules et également essayer les équipements. Merci. Nous tenons également à remercier Radio Albigès pour leur accueil et leur aide à la création de l'émission. Merci à Arnaud Bancarel pour son travail, son expertise et ses conseils avisés. Enfin, merci à Madame Tabazinski et Madame Siguier qui nous ont soutenus depuis le début dans le lancement de ce projet. Restez fidèles à Radio Albigès sur 15.4 et 104.2 FM et également leur site internet www.radioalbiges.com. Si vous souhaitez nous réécouter, l'émission sera disponible en podcast sur Radio Albigès et sur l'ENT du Collège Augustin Malroux de Blaye-les-Mines. Merci. Au revoir.
Vous venez d'écouter une émission spéciale de découverte du monde professionnel et du parcours d'orientation. Une émission réalisée par des élèves de 3e du collège Augustin Malroux à Blaye-les-Mines dans le cadre de leur parcours à venir. En collaboration avec Madame Cabane, professeure de sciences et vie de la Terre, et Monsieur Suarez, professeur documentaliste. Merci aux élèves Camille, Assia, Lilou, Jade, Lina, Nassim, Vincent, Loïc, Lucas, William et Maxence. Merci aux personnes interviewées, Monsieur Saïs, psychologue de l'éducation nationale chargé d'orientation, Monsieur Bégor, proviseur du lycée Jean Jaurès de Carmo, les anciens élèves du collège Augustin Malroux, la CPE des lycées de Carmo, Monsieur Marty, pâtissier chocolatier confiseur glacier à Carmo, Madame Zamolo, responsable de l'approvisionnement pour l'entreprise Palmieri Mécanique, Monsieur Dor de la carrosserie Dor à Carmo, et le commissariat de Carmo. N'hésitez pas à contacter Radio Albigès si vous voulez vous aussi organiser des ateliers radio dans vos établissements. En vous souhaitant une bonne écoute de la suite de notre programmation, Alcop Québec et Alplazé Bravemonde.